Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 715 du podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous. On va débriefer des matchs de Wildcards de ce dimanche uniquement. Au programme, on a eu un match très tendu et un gros carnage, comme on peut le dire, un craquage même. Et à mes côtés, pour parler de ces deux rencontres, Victor Roulier. Comment ça va, Victor, depuis hier? On était ensemble hier dans le fauteuil.
Eh ben oui, bonjour Lucas, bonjour à tous. C'est vrai qu'on ne se quitte plus. On a déjà passé 2 heures ensemble hier, et là, rebelote pour parler, tu as dit, d'un dimanche assez incroyable, parce qu'on a eu une énorme surprise, et un match haletant jusqu'au bout.
Oui, tu l'as dit, 2 heures ensemble hier, on a notamment débriefé des deux premiers matchs de wildcard de samedi, n'hésitez pas, on va parler aujourd'hui de ceux de dimanche, il y en a deux, on va être ensemble pour une petite demi-heure, et on devait en avoir trois, on le rappelle, mais la rencontre entre les Steelers et les Bills a été décalée à lundi. Donc quand vous allez nous écouter, vous connaîtriez déjà tous les qualifiés. Mais nous, pour l'instant, on ne sait pas encore le résultat entre les Bills et les Steelers et entre les Buccaneers et les Eagles. Mais on va parler des deux matchs qui se sont passés et notamment le premier, la grosse surprise de ces playoffs pour l'instant, la victoire des Packers à Dallas, 48 à 32. Vous m'avez bien entendu, 48 à 32. Et autant si vous étiez avec nous dans le fauteuil, donc je l'ai dit il y a quelques jours, vous aviez vu que Victor et moi, on avait débattu sur le fait de savoir si le match entre les Texans et les Browns avait été un bon match, si ça avait été un gros match serré. Là, Victor, on peut dire, il n'y a pas eu débat, il n'y a vraiment pas eu de match. Je pense qu'on peut être d'accord pour le dire. Les Packers menaient 27-0 juste avant la mi-temps, puis 27-7 à la mi-temps. Les Cowboys sont revenus un petit peu en fin de match, rendant le score un petit peu moins impressionnant. Mais ils ont été dominés partout. Au final, Victor, je parlais de surprise. Mais est-ce que voir Dallas craquer en play-off, est-ce que c'est vraiment une surprise?
Ben oui, parce que d'habitude, ils craquent en divisionnal. Mais c'est vrai que là, le score déjà 48-32, il paraît horrible. Mais le score avant Garbage Time, c'est 48-16. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on parle des Cowboys qui n'ont quasiment pas perdu à domicile depuis 2 ans, qui ont une des meilleures défenses de la Ligue, peut-être la meilleure défense de la Ligue, ils se sont pris 40 points en 3 quarts-temps par le seed de numéro 7. Bon, équipe, on va en parler, très valeureuse, qui était sur une super dynamique, mais enfin, quand même. Là, ça a été, honnêtement, les craquages des Cowboys, oui, on en a vu pas mal tous les ans. On rappelle, ça fait 30 ans quasiment, enfin 28 ans, qu'ils ne sont pas allés en finale de conférence, etc., etc. Mais il y a défaites et défaites, quoi. T'as des défaites cruelles, t'as des désillusions, t'as ce que tu veux. Celle-là, c'est un massacre. C'est-à-dire qu'ils ont rarement été aussi bons. Ils avaient zéro blessé. Ils étaient à domicile. Ils avaient la confiance. Et comme quoi, rien n'est acquis dans le football américain. on en parle avec les Eagles depuis un mois et avec plein d'autres équipes tous les ans. Incroyable saison régulière quasiment du début à la fin. Craquage absolu pendant 45 minutes. C'était franchement, moi-même, j'étais devant le match, j'arrivais pas vraiment à y croire, quoi. J'étais estomaqué.
Ouais, c'est en effet dur à y croire parce que tu l'as dit, alors ça fait plusieurs saisons qu'ils ont un très bon bilan en saison régulière, ils étaient à 12-4 et on le sait, ils font des bonnes saisons régulières et ils craquent en play-off notamment depuis ces quelques dernières saisons régulières, mais c'est vrai que là on avait l'impression que c'était différent, on le disait, il y a quelque chose de différent, l'attaque marche bien, la défense aussi, et c'est vrai que, alors là je peux pas vraiment vous donner des stats qui vont vous parler parce qu'il y a eu ce garbage time, cette fin de match où notamment Dak Prescott a accumulé les yards, il dépassait 400 yards à la fin, il lance 3 touchdowns, mais c'est pas significatif, et toutes les statistiques sont un petit peu faussées à cause de ça notamment, mais c'est vrai que du début jusqu'à, on va dire, 3 quarts temps et demi, que ça soit l'attaque ou la défense, il n'y avait rien qui se passait, et ils ont été dominés dans tous les secteurs. On a du mal à trouver un secteur où Green Bay n'a pas été meilleur.
Bah complètement, à l'image d'un Micah Parsons qui a une pression, je crois, dans ce match. On rappelle que la ligne offensive des Packers, ce n'est pas la sécurité sociale. Et à la fin de ce match, il y a zéro sac. Bon, il y a zéro sac aussi parce que Jordan Love a été très bon pour se débarrasser du ballon. Il faut l'avouer. C'est pas Jordan Love, il y a peut-être 3 ou 4 sacs. Mais ce qui est incroyable, c'est quand il se débarrasse du ballon, c'est pas pour le lancer en touche, c'est pour trouver Romeo Doubs. Ça a été ça tout le match, pour faire des 20-25 yards. En plus, c'est terrible parce qu'il y a genre 3-10, 3-12. Tu te dis, ah peut-être, Love, il est entre 3 joueurs, il se prend des coups de partout. Bah non, 25 yards, bam, c'est fait. C'était un récital absolu.
Ouais, un récital en effet, d'autant que tu l'as évoqué, les Cowboys, ils étaient quasiment imbattables à domicile, ils n'ont pas perdu cette saison à domicile, ça faisait un moment, les derniers qui les avaient battus, c'était les Buccaneers, et c'était en septembre 2022, ça fait quasiment un an et demi, imaginez-vous. Donc là, c'est vrai que le numéro 7, la tête de série numéro 7 qui vient les battre, c'est improbable, et tu l'as dit, on tape beaucoup depuis le début de cette journée, et depuis hier soir sur l'attaque et sur Dak Prescott, qui a eu du mal à avancer, qui a lancé un pick 6 notamment, qui a lancé une autre interception qui a fait beaucoup de mal au momentum, mais la défense, tu en as parlé, très peu de pass rush, plus de 400 yards encaissés, ils ont trouvé aucune solution à ces jeunes Packers qui pour le coup, eux, avaient peu d'expérience et les ont fait tourner en bourrique.
Oui, c'est ça. Moi, je pense que la défense des Cowboys est le principal responsable, largement devant l'attaque. C'est peut-être personnel, mais je pense que c'est le principal responsable. Après, ben, en fait, c'est marrant, Jordan Love, c'est un peu comme Deshaun Watson. Tu sais que CJ Stroud, pardon, c'est un quarterback des Texans, mais c'est pas le même. CJ Stroud, hier, il fait 16 sur 21, 274, 3 touchdowns. Jordan Love, il fait 16 sur 21, 272, 3 touchdowns. On a la nouvelle génération, là, apparemment, ils se ressemblent jusque dans les stats. Écoute, cette jeune équipe cette jeune équipe des Packers, elle est absolument irrésistible. Ce match a été incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Watson, qui est quand même censé être, avant la saison en tout cas, le receveur numéro 1, il capte un ballon. Jaden Reed, le receveur le plus prolifique de cette saison, il capte 0 ballon. C'est pas grave. T'as Romeo Doubs, qui a fait 150 yards et un touchdown. T'as Luke Musgrave, t'as Dontavius Weeks, t'as Tucker Kraft. C'est que des rookies et des sophomores, etc. Mais cette attaque, elle a joué en patron. C'était extrêmement bien coaché. C'était extrêmement bien exécuté. Et Jordan Love, là, il a ce que les Américains ont bien appelé le statement game, le match référence. Là, il a dit, bah oui, je suis à la table des tout meilleurs quarterbacks de cette ligue.
Oui, parce que c'est intéressant la comparaison que tu fais avec CJ Stroud dont on a parlé hier, parce qu'on l'a dit, CJ Stroud, les statistiques ne mettent pas assez en valeur le match qu'il a fait en playoff, parce que c'est vrai que quand on regarde ses fiches de stats, 16 sur 21, 273 yards, 3 touchdowns, c'est très bien, mais on peut imaginer que quand on fait un énorme match, c'est beaucoup plus, et pourtant... L'impression visuelle, et c'est exactement la même chose pour Jordan Love, qui lui est à 16 sur 21, 272 yards, 3 touchdowns, tu l'as dit. L'impression visuelle d'un Jordan Love, Elle est excellente parce que tu l'as dit, il a évité des sacs qui, si ce n'était pas lui, ça aurait pu facilement se transformer en sac en effet. Et puis surtout, il ne s'est pas débarrassé du ballon, il a trouvé des joueurs. Tu as parlé de Romeo Doubs, 6 réceptions, 151 yards, un touchdown. Il a été bien aidé aussi, il faut le dire, et le mentionner par un jeu au sol qui a été performant. Aaron Jones qui finit avec 21 courses pour 118 yards et 3 touchdowns. Donc tout ça en attaque notamment, c'est très bien déroulé pour les Packers. Et le plus impressionnant, tu l'as mentionné, c'est que ce ne sont que des jeunes. On ne sait pas ce que ça va donner sur cette fin de playoff. Ils vont jouer, on en parlera tout à l'heure, face aux 49ers. On verra ce que ça donne. Mais c'est aussi un très bon signe pour l'avenir. Parce que Love est jeune, ses receveurs sont jeunes, il y a une jeune équipe qui est en train de progresser. Mais là, ils ont déjà envoyé un vrai bon message pour leur premier match de play-off tous ensemble, on va dire.
Oui, le message, il est clair. C'est le même message que les Texans. Je continue cette analogie. C'est on est jeune, on n'a rien à perdre, on finit la saison en boulet de canon et on ne sera pas bon à prendre. Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment ce message-là qui est envoyé. C'est des équipes qui, bien qu'elles n'aient pas l'expérience, bien qu'elles n'aient pas tout ça, bah, ça joue avec une envie et ça joue sans peur, en fait. Et cette équipe des Packers, qui est la première équipe septième tête de série à gagner un match. Bon, ça ne fait que 3 ans, hein, évidemment. Mais 3 ou 4. Bon, bref. En tout cas, cette équipe des Packers, là... Évidemment, les Niners seront favoris à domicile. En plus, ils ont avantage psychologique d'avoir battu les Packers en playoff en 2020 et en 2022. Mais malgré tout, on a une équipe. Bon, tu te dis, s'ils jouent comme ils ont joué contre Dallas, va quand même falloir faire une belle prestation pour passer devant ça.
Il me semble que c'est la 4e saison, parce que je crois qu'avoir vu la statistique, en effet, la 7e tête de série était à 0 sur 6.
D'accord.
Si on fait 2 par saison, c'était la 4e saison, il me semble. Mais en effet, Green Bay a été bon, et a été bon un petit peu partout. Aussi, un petit mot sur le coach, parce qu'on l'a parfois critiqué, Matt LaFleur, quand il avait Aaron Rodgers, il n'avait pas réussi à amener cette équipe au très haut niveau. Là, il a un petit peu reconstruit, entre guillemets, et il prouve une nouvelle fois, pour continuer l'analogie avec les Texans, hein, D'Amico Ryans, lui, vient d'arriver, il a beaucoup de hype sur le coach de l'année, mais c'est vrai que Matt LaFleur, il n'y sera pas, très certainement, mais il a quand même fait une très bonne saison, il a qualifié cette équipe, et là, il l'a fait passer un tour, et puis il a été très bon dans ce match-là aussi, il a, on peut le dire, dominé Mike McCarthy et tout son staff, lui avec son staff.
Oui, bah on pouvait en effet se dire oh, il a été, c'est un coach qui a bénéficié d'Aaron Rodgers, etc. Et en début de saison, quand ils sont à 2-5, les critiques pleuvent hein, sur LaFleur. Et puis finalement, bah, il a réussi à mobiliser ce groupe, il a réussi à le construire, à progresser. Je pense qu'il a progressé en tant que coach, en même temps que Jordan Love. Et même, tu parlais du coaching staff dans son ensemble. Même Joe Barry, qui est certainement pas un top coordinateur défensif et qui a été beaucoup critiqué toute cette saison, j'ai trouvé qu'il avait été innovant et agressif, ce que j'aurais jamais cru pu dire de lui. Je pense que c'est tout un coaching staff qui a décidé de jouer crânement ses chances. C'est-à-dire, c'est pas de l'agressivité... on n'en a rien à faire, on n'a rien à perdre, on fait n'importe quoi. Non, c'est... Vous allez voir, on va être meilleur jeu après jeu après jeu. Et c'était assez incroyable.
Oui, c'était bien mis en valeur par les commentateurs américains. Je crois que c'était Greg Olsen, l'ancien tight end des Panthers, qui commentait ce match. Et il le montrait, en effet, le système défensif. Il expliquait qu'en effet, il y avait ce que la défense montrait avant le snap, ce que voyait Dak Prescott. Et puis ensuite, il y avait ce que la défense faisait après le snap. Et tout cela était toujours très changeant, très, très incertain, ce qui a rendu la vie très compliquée à Dak Prescott, qui habituellement est plutôt bon dans cette analyse de défense. Et là, il n'a pas été du tout, on l'a dit, il lance un pick six. Et c'est vrai que cette défense, elle a été très bonne. Un petit mot, il y aura un podcast, preview de ces divisional rounds, bien sûr. Mais un tout petit mot sur ce match qui s'annonce, puisqu'on le sait déjà, les Packers se déplaceront à San Francisco la semaine prochaine. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Ils vont, encore une fois, certainement mener la vie dure à San Francisco. Ça sera différent parce que les 49ers, eux, sortiront de une semaine, voire deux de repos si on compte la semaine 18. Mais ça peut donner un match excitant, en tout cas.
Bah écoute, moi, c'est ce qui me fait un tout petit peu peur avec San Francisco et avec Baltimore, d'ailleurs. C'est que tu as une équipe qui a globalement, qui va avoir 3 semaines jour pour jour entre la dernière fois où ils ont joué et ce match-là, face à une équipe en pleine confiance qui a tous les automatismes parce qu'ils ont joué la semaine dernière. Donc, attention à ne pas louper début de match, quoi. On l'a vu hein, dans l'histoire des équipes comme ça qui avaient un peu de mal à se mettre en jambes. Je pense malgré tout que les Niners sont meilleurs des deux côtés du ballon et je ne vais pas empiéter sur la preview, mais devraient dominer ce match. Mais clairement, je pense que les Packers, aujourd'hui, ça fait rire personne. Quand on voit la démonstration qu'ils viennent de mettre à Dallas, si tu ne prends pas au sérieux cette équipe, je ne sais pas bien ce qu'il te faut.
Ouais, et puis il y aura aussi un beau duel qu'on a l'impression de voir tous les ans entre Matt LaFleur et Kyle Shanahan en playoff. Ça va être sympa à voir. Tout cela sera débriefé dans la preview. Ces podcasts aussi de débrief, c'est l'occasion de dire au revoir à certaines équipes. On va dire au revoir aux Cowboys. Et on va dire au revoir aussi à Mike McCarthy. Est-ce qu'on va lui dire au revoir pour de bon? À l'heure où on parle, il n'est pas licencié encore. Je dis encore parce qu'il y avait forcément des rumeurs avant ce match-là. Pour l'instant, rien n'a filtré. Mais est-ce qu'on a vu le dernier match de Mike McCarthy à la tête des Cowboys, Victor?
Bah en plus, lui-même, en interview, il avait dit « c'est pas sur la saison régulière que je serai jugé, c'est sur le résultat à la fin, etc. » Bah, le résultat, c'est que tu t'es fait humilier au premier tour des playoffs par la tête de série numéro 7 à domicile. Bah, merci, au revoir et place à quelqu'un d'autre parce que oui, je pense que là, même psychologiquement, en fait, tu peux pas repartir avec les mêmes. C'est ce groupe, il est brisé. En plus, il y a quand même une intersaison qui va être très difficile avec beaucoup, 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 beaucoup d'agents libres. C'est une des équipes qui a le plus d'agents libres à venir. Donc, clairement, oui, il faut tourner la page. Il faut faire autre chose. Et je sais pas du coup ce qu'ils feront, mais ils doivent peut-être regretter d'avoir fait partir Ken Moore.
Oui, parce que en effet, si Mike McCarthy venait à être limogé, remercié, appelez-le comme vous voulez, il faudra chercher un nouvel entraîneur. On avait beaucoup parlé ces dernières saisons de Kellen Moore, qui lui est parti à Los Angeles. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir.
Oui, bien sûr.
Bon, s'il est parti, c'est peut-être pour certaines raisons. On a aussi beaucoup parlé de Dan Quinn, mais je ne suis pas sûr que ce match-là soit son meilleur entretien d'embauche, vu comment la défense a été poreuse face aux Packers. On parle aussi, vous vous y doutez bien, avec Jerry Jones de Bill Belichick, parce que c'est un propriétaire qui a toujours eu tendance à vouloir tenter des coups d'éclat. Donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, il faudra observer ça pour les Cowboys. Et quant aux Packers, eux, ça sera donc un match face aux 49ers dès la semaine prochaine. Nous, on passe à l'autre match de cette soirée. Et ça y est, Victor, la série est terminée 32 ans après. Les Lions ont enfin gagné un match de playoff. C'est l'une des disettes les plus mythiques de la NFL qui s'arrête, elle n'existe plus et il a fallu aux Lions beaucoup de talent, beaucoup de mental pour s'imposer 24-23 dans un match chargé en émotions face aux Rams avec notamment Matthew Stafford qui revenait pour la première fois au Ford Field par exemple depuis son trade. Sur le terrain, on s'attendait à un feu d'artifice, c'est un petit peu ce qu'on a eu, notamment en première période avec deux équipes qui sont parties à fond. 5 touchdowns inscrits lors des 30 premières minutes. Les Lions ont pris les devants d'entrée et ils ne les ont plus jamais lâchés. La deuxième période a été un petit peu plus serrée avec uniquement 3 field goals. Mais là, vraiment, Victor, on a eu l'impression de voir, d'assister à un match de playoff comme on les aime.
Bah oui, écoute, c'est un peu ce qu'on se disait avant le podcast. C'est qu'on a eu 3 matchs qui globalement étaient finis après 3 quarts-temps. Donc ça a fait du bien d'avoir un match qui s'est joué jusqu'au bout. Concernant ces Lions, bah écoute, ils ont doublé leur nombre de victoires en playoff depuis le début de leur Super Bowl. Voilà. Donc ça, c'est beau. Bravo à eux. Écoute, il y a concrétisation d'un an et demi de progrès continu. Et comme tu l'as dit, c'est une équipe... En fait, sur les 3 premiers drives, ou 3 sur 4, ils marquent 21 points. On se dit que le match est presque fini parce qu'on pense vraiment à ce moment-là que les Rams vont prendre 50 points. Ça a calé. Ça a failli leur coûter la victoire. Mais d'un autre côté, c'est symptomatique aussi de cette équipe qui se bat. C'est-à-dire que tout ne va pas bien dans un match de la minute 1 à la minute 60. Mais quand bien même tu n'es pas forcément dans les meilleures dispositions, bah, tu continues à te battre encore et encore pour sauvegarder le match, à l'image de cette défense qui avait été quand même moyenne tout le match et qui se réveille à la fin sur le dernier drive quand il le faut. Donc voilà, c'est une équipe de guerriers qui a gagné un match de guerriers.
Oui, parce qu'on parlait des Cowboys en se disant « cette année, on les sent différents » et finalement, en play-off, ils ont été les mêmes Cowboys, comme on dit. On se disait la même chose des Lions, on se disait « cette année, c'est différent ». Et c'est vrai que cette fin de match-là, elle aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre et peut-être que des anciens Lions auraient craqué dans ce match-là, auraient perdu et auraient continué cette série d'aucune victoire en play-off depuis plus de trois décennies. Là, pour le coup, ils ont résisté. Comme tu l'as dit, tout n'a pas été parfait, mais ça montre aussi ce vrai changement aussi de peut-être de culture d'une équipe qui se bat, comme tu le dis, et qui a gagné ce match à l'arraché, parce qu'on le sait, les matchs de play-off, on ne va pas exploser tout le monde, et il va y avoir des matchs serrés, il faut être capable d'aller gagner ce genre de match, et notamment à domicile avec le soutien du public.
Oui, bah, je pense que le public, en plus, clairement, c'est pas un public qui a été gâté, hein, donc ils attendaient depuis 30 ans de jouer à domicile en play-off, donc ils étaient là, ils étaient au rendez-vous, ils étaient forcément derrière leur équipe. Écoute, ça a été un vrai match de football. Ça a été ce combat yard après yard après yard comme on les aime, finalement. Et on a vu quand même un beau duel de quarterback entre un Jared Goff game manager plus et un Matthew Stafford à la Matthew Stafford, capable de faire des lancers laser. Parfois, tu te dis, c'est incroyable d'avoir encore cette puissance de bras à cet âge-là. Non, c'est deux équipes valeureuses, mais à la fin, il fallait qu'il y en ait une qui gagne, en fait, tout simplement.
Ouais, tu l'as dit, un beau duel, un match dans le match entre ces deux quarterbacks qui jouaient forcément face à leurs anciennes équipes et qui sont forcément un petit peu liés. Jared Goff termine à 22 sur 27, 277 yards et un touchdown. Matthew Stafford, c'est un petit peu mieux. Il était forcément derrière, il a dû lancer 25 sur 36, 367 yards, 2 touchdowns. Mais pour moi, la différence, elle s'est faite dans la zone rouge. Parce que quand on regarde les statistiques, les Lions, ils sont à 3 sur 3 dans la zone rouge en termes de touchdowns inscrits. En revanche, les Rams, lors de trois passages dans les 20 derniers yards adverses, ils n'ont marqué aucun touchdown et ont dû s'arrêter pour des field goals. Et quand on voit que c'est un match qui se joue à un point, je trouve que la différence, elle se fait là.
Je suis d'accord avec ça. Les Rams ont perdu le match en zone rouge. On a vu... Enfin, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est cette obsession à jouer à la passe, en fait, en zone rouge, alors que... t'as quand même un jeu de course qui marche bien. Je pense notamment, alors c'est au tout début du match, je pense, quand il fait pass sur cup, puis une troisième où il est sous pression. Bon, t'as envie de dire, peut-être en première ou en deuxième tentative, tenter une petite course, tenter d'avoir le touchdown facile, un peu comme on fait les Packers d'ailleurs avec Aaron Jones. Donc oui, j'ai trouvé que... en termes de coaching, on sait, McVay, c'est un des meilleurs coachs de la Ligue aujourd'hui. Mais sur ce match-là, bah, il peut s'en vouloir, tout à fait.
Oui, il peut s'en vouloir. Alors après, tu parlais du jeu au sol. En effet, les Rams ne gagnent que 68 yards au sol. On sait, les Lions n'ont pas une défense incroyable, mais ils sont plutôt bons au sol. Ils encaissent moins de 100 yards par match. En tout cas, ils l'encaissaient moins de 100 yards par match en saison régulière. Et là, pour le coup, ils ont relativement bien tenu dans les airs en deuxième période, quand il fallait tenir. Tu l'as dit, ils ont pris beaucoup de yards en début de match. Ils ont pris des touchdowns. Mais quand il a fallu tenir, ils ont tenu. Est-ce que cette défense, elle est taillée pour survivre en play-off? Parce que désormais, comme on dit, le ciel est la limite pour les Lions.
Il faudra des grosses performances de la défense, ça c'est sûr. Meilleur que ce qu'on a eu aujourd'hui, tu vois, pour le coup. Si tu espères, si vraiment l'idée c'est de dire le ciel est la limite et notre objectif long terme c'est d'aller gagner un match à San Francisco, parce que bon, sauf exploit des Packers, c'est ce qu'ils devront faire. Dans ce cas-là, oui, il va falloir une défense qui soit meilleure que ça, parce que là, ils sont quand même passés tout proche de la correctionnelle. On a vu que c'est notamment dans les deux lignes arrière que ça coince un petit peu. Notamment Garner Johnson qui était de retour, bon, je ne l'ai pas trouvé très inspiré sur ce match. Donc oui, clairement, en fait, ils ont l'attaque pour aller loin. Ils ont même l'attaque, honnêtement, hein, vu comment elle performe, ils ont l'attaque pour aller gagner un Super Bowl. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'ils ont la défense pour aller gagner un Super Bowl? J'en doute encore.
Ouais, il faudra le voir. Tu parlais du staff, enfin des coachs. Tu as parlé de Sean McVay, Dan Campbell qui lui aussi découvre les playoffs, hein, qui n'est pas forcément le plus expérimenté en tant qu'head coach au niveau des playoffs. Il a montré qu'il allait continuer dans sa lignée, d'être agressif. On l'a vu jouer une quatrième tentative qui termine en touchdown au moment où les Lions étaient devant et on le voit qu'à la fin ça compte. Il est allé, il joue agressif, il l'avait montré face aux Cowboys, il le montre de nouveau en playoff. Là aussi c'est un bon match de Dan Campbell qui continue sur sa philosophie.
Et il est fidèle à lui-même, il est fidèle à lui-même jusqu'au bout, il sera agressif. En fait, il est ce que Brandon Staley aurait rêvé d'être, si tu veux, un mec agressif et qui en plus réussit. Je suis à peine taquin, mais pour le coup, non, moi je trouve vraiment que c'est un match à l'image de ces Lions, c'est-à-dire agressif, qui prendront tous les risques pour gagner un match. C'est juste extraordinaire.
Tu l'as dit, pour les Lions, désormais, ce sera grâce aux Packers qui ont battu les Cowboys, le match de Divisional Round sera à domicile. Pour les Lions, ils vont recevoir, je l'ai dit, on sait déjà, hein, les Packers joueront face aux 49ers dans la nuit de samedi soir à dimanche. Les Lions, eux, attendent leur adversaire. Quand vous écouterez ce podcast, vous le savez, vous le sauriez déjà certainement. Ils joueront face aux vainqueurs entre les Eagles et les Bucks. Quoi qu'il arrive, ils recevront le vainqueur de ce match-là. Ce sera dimanche à 21h. On a un petit peu parlé de la suite, on ne connaît pas l'adversaire, donc on ne va pas évoquer ce match. On peut parler de la suite pour les Rams, qui sont dans une situation bien différente des Cowboys dont on parlait tout à l'heure, parce que eux, ils étaient à un endroit où on ne les imaginait certainement pas. Je le rappelle, hein, en début de saison, lors du Power Ranking, on les avait mis 28e ou 29e. Ils se qualifient en playoff, ils sont sur le point de battre la tête de série numéro 3. C'est tout bon pour les Rams qui construisent une nouvelle, on va dire une nouvelle dynamique.
Oui, c'est là vraiment, je pense que eux, ils peuvent être que contents de ce qui s'est passé. C'est vraiment une équipe qui, comme tu dis, on n'en attendait pas grand-chose, on va être honnête, hein. Et finalement, ils ont un receveur superstar qu'ils ont trouvé au cinquième tour. Ils ont en défense des Kobe Turner, etc. Donc des jeunes qui ont surperformé aussi. Même Steve Avila sur la ligne, etc. Ils ont réussi leur draft. C'est-à-dire qu'ils...
Un running back aussi.
Oui, c'est ça. Qui est sophomore, qui n'est pas rookie, mais tu as raison de mentionner aussi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a, on ne sait pas souvent, son premier choix de draft. Hein. C'est quelque chose qui est devenu un peu un running gag. Mais par contre, les choix de draft qu'ils ont, ils draftent bien. Et là, finalement, ils ont un bien meilleur socle qu'il y a un an. Bon, le jour où Stafford va dire j'arrête, c'est sûr qu'il y aura quand même cette problématique, hein, qui va leur tomber dessus à un moment. Mais malgré tout, voilà, c'est une équipe qui a des fondations. Et en plus, on a vu Sean McVay pendant un moment... qui disait, ouais, je sais pas si je vais continuer à coacher encore longtemps, etc., machin. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il a retrouvé la flamme avec ce groupe, en fait.
Oui, parce qu'il a déjà annoncé qu'il allait rester. Et en effet, l'année dernière, déjà, ça avait été la grande discussion en Californie, de savoir si Sean McVay allait rester pour certainement un nouveau cycle. Et là, véritablement, il a déjà annoncé qu'il allait rester. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit remercié, donc parce que qu'il soit licencié, parce qu'il fait une super saison avec ce qu'il a. Et comme tu l'as dit, en plus, même s'ils n'ont pas toujours leur premier tour, ils draftent bien. On peut leur faire confiance sur ça sur l'année prochaine. Ça peut donner une équipe aussi dans le futur qui peut poser des soucis en NFC si la courbe de progression est celle qu'on imagine, Victor.
Oui, je pense que de toute façon, tant que McVay sera là, ça ne sera jamais une équipe facile à prendre. Et là, je te dis, je trouve que vraiment, il y a un groupe, quoi, il y a quelque chose et c'est vraiment bien pour eux parce que là, on peut se projeter. C'est-à-dire que oui, tout n'est pas réglé. Oui, il restera à régler ce problème de quarterback quand il arrivera, etc. Mais malgré tout, voilà, quelle superbe équipe, quelle superbe mentalité. Non, c'est vraiment, c'est rassurant, c'est rassurant.
Eh bien voilà, c'est sur ces mots rassurants qu'on termine le débrief des affiches de ce dimanche du Wildcard Round de cette saison 2023. Demain, comme je vous l'ai dit, vous aurez le reste des rencontres de ce week-end avec le Bills Steelers et le Buccaneers Eagles. Nous, pour l'instant, on ne sait pas encore le résultat. Comment ça va, Victor, d'ailleurs? Comment... On est à quelques heures du match. C'est pas tout de suite, mais ça va, tu gères bien?
Écoute, ça va, ça va. Avec les années, je gère beaucoup mieux. Plus les années passent, plus je vieillis, plus je gère avec philosophie des choses. Écoute, on verra bien. Déjà, tu vois, il y a plus de la moitié des équipes qui n'ont même pas la chance d'être en play-off. Donc, c'est déjà une belle opportunité de pouvoir voir son équipe en play-off quasiment tous les ans. Et puis, on va en profiter.
En tout cas, oui, on espère deux gros matchs à l'image de ce qu'on a eu ce week-end. Merci, Victor, d'avoir été avec nous.
Ben, merci, Lucas. Merci à tous. Et rendez-vous jeudi pour ma part.
Oui, il y a encore beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à venir. Je l'ai dit, le podcast de débrief des derniers matchs, le podcast preview du Divisional Round. Il y a de moins en moins de matchs, mais il n'y a pas de moins en moins de podcasts. Hein, parce qu'ensuite, il y aura, on vous en a parlé un petit peu hier, il y aura aussi des podcasts draft, il y aura des podcasts et des interventions faites depuis Las Vegas, si tout se passe bien. Voilà, il y a encore beaucoup de choses dans cette fin de saison NFL qui s'annonce très intense et qui doit encore donner son vainqueur. Quelques équipes sont déjà éliminés. On a dit au revoir aux Cowboys et aux Rams. Les Packers et les Lions continuent et on verra pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à continuer d'aller sur le site, sur les réseaux sociaux aussi, touchdownactu.fr, sur le Tipeee, vous en avez l'habitude. Et nous, on se retrouve très vite sur Touchdown Actu. Et puis aussi, je parle beaucoup de Touchdown Actu, mais aussi un petit W9 aussi ce week-end. On ne sait pas encore quel match et quand. Peut-être que quand vous écouterez ce podcast, vous le saurez aussi. Mais nous, on sera bien là. Ciao, ciao. Thank you.